Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une quatrième saison s'ouvre aujourd'hui pour les chroniques des Toulousains de Toulouse, les chroniques du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien Pénary.
Et bonjour Jean-François Ladger, notre cher chroniqueur.
Oh, merci, bonjour Sébastien, bonjour à tous, bonjour Aline.
Et on va reprendre avec les Visigoths que nous avions laissés au mois de fin juin. Fin juin, et voilà, la parole
période,
est à vous.
Période importante, mot un petit peu magique, parce que quand on parle des Visigoths, tout de suite, bon, ça a un côté un petit peu à la fois barbare, à la fois important pour la ville. C'est une période qui est très repéré. Alors, comme ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé, des origines de la ville, pour reprendre le fil de l'installation des Visigoths qu'on a ébauché à la dernière émission?
Oui, Aline, effectivement, peut-être que ça vaut le coup de redémarrer cette nouvelle saison en faisant un bref rappel, avec quelques repères très, très rapides. Et des dates très globales, faciles à retenir. Moins 4000, par exemple, avant notre ère, c'est facile à retenir. Ce sont les premières traces d'habitat permanent, hein, c'est-à-dire d'un habitat sédentaire, on ne parle pas encore de ville. On est au néolithique, et ça se passe au bord de la Garonne, particulièrement au quartier d'Ancely actuel, c'est-à-dire au confluent du Touche et de la Garonne. On avait évoqué vraiment... Un espace clos, un éperon avec des palissades et des fossés, et à l'intérieur, on pourrait dire des cabanes, hein, d'une certaine manière, des groupes de cabanes. Après, on fait un bond dans le temps, on arrive à l'âge du fer, on se place vers moins 800 avant notre ère, donc là aussi date facile à retenir, parce que là, pour le coup, on a un embryon de centre urbain, c'est-à-dire on n'est pas dans un simple village, c'est un centre urbain de hauteur, à Vieille-Toulouse, et simultanément un autre centre urbain à 4 km plus au nord, donc au quartier Saint-Roch, hein, Saint-Agne, Niel, dans cet endroit-là. Donc deux centres urbains, un de hauteur, un en bord de fleuve, mais tous les deux au droit des passages à gué de la Garonne, puisque on avait beaucoup insisté, rappelle-toi Aline, sur les origines de la ville et dont le site de la ville, et notamment ces passages de la Garonne, et puis la trouée de Montaudran, c'est-à-dire ce passage qui ouvre la voie vers la Méditerranée. Un petit bond dans le temps supplémentaire vers moins 400, au gré des migrations ou des changements de culture, j'y reviens pas, mais donc avec les Volques, donc les Celtes Volques, on a d'abord vers moins 400 un site d'en bas prédominant par rapport à celui de hauteur.
C'est un roc.
Et puis vers moins 250, c'est l'inverse. C'est plutôt le site de hauteur qui se développe au détriment du bas.
Le site d'auteur étant le site du pouvoir.
Le site du
on
pouvoir,
peut dire, ça, puisque...
c'est ça. Et puis une période où les deux sont relativement équivalents, les deux sites, entre moins 200 et moins 100, et là on peut parler vraiment d'une première urbanisation, c'est-à-dire qu'au contact des Romains, on commence à avoir des chemins qui deviennent un peu des rues, qui se régularisent, des constructions qui s'alignent, des bâtiments rectangulaires, en ossature de bois et de torchis, sur des petits enclos fossoyés. Voilà, donc premier signe d'urbanisation.
Donc, arrivée des Romains.
Et oui, arrivée des Romains, on en a longuement parlé, donc je vais être bref, mais avec l'irruption des Romains, je passe les étapes, mais en gros, le moment important, c'est Auguste, donc premier empereur, et dans un laps de temps entre moins 14 et 14, une forme de refondation de la ville, c'est-à-dire que c'est cette ville double qui avait été délaissée pour la partie basse, c'est-à-dire que, voilà, au 1er siècle avant notre ère, c'est vraiment l'oppidum de Vieille-Toulouse. La ville est déplacée au bord de la Garonne, à l'endroit qu'on connaît.
Dans un site qui était vierge de toute occupation.
Dans un site qui était quasiment vierge, voilà, c'est ça. On avait beaucoup parlé de la physionomie de la ville, des monuments. Tu te rappelles, vous rappelez, hein, Sébastien, Aline, on avait beaucoup parlé du rempart, des monuments. Oui. On est arrivé aussi au cours du 4e siècle à la période de christianisation de la ville, comme partout, et notamment après après Constantin le Grand, hein, et donc les différents édits relatifs à la christianisation de l'Empire, qui avaient engendré à Toulouse comme ailleurs la destruction des grands temples.
Eh oui. Hein,
et donc,
les grandes installations.
Récupération des matériaux, on récupère les marbres pour faire de la chaux, on les réutilise dans les nouveaux bâtiments, notamment du coup les églises, les premières églises. On avait évoqué évidemment Saint-Cernin, on avait évoqué le site de la première cathédrale, dans, selon les travaux de Kitourikaz, hein, c'est-à-dire a priori à l'emplacement de Saint-Étienne. C'est un emplacement qui n'a pas bougé, le siège des évêques. Et donc, on en était arrivé là, donc, à nos fameux Visigoths.
Alors, oui, alors, puisqu'on parle d'installation et de royaume, hein, ben, y a forcément un palais.
Alors,
on l'avait évoqué la dernière
on
fois
l'avait, on l'avait un petit peu évoqué, je pense que c'est dans l'émission qui a dû passer la semaine dernière. Alors, on avait évoqué effectivement que dès lors qu'ils s'installent, ils sont fédérés. Hein, il y a un traité de fédus, ce qu'on appelle le fédus, c'est-à-dire que les Visigoths sont fédérés. Du coup, ça devient un royaume à l'intérieur de l'Empire.
C'est-à-dire fédérés, et peut-être pour nos auditeurs,
oui.
Ils sont au service
c'est-à-dire
des Romains.
C'est-à-dire qu'ils sont au service, ils sont, voilà, ils ont, on dirait aujourd'hui, une autonomie. Ce serait un royaume avec un certain...
D'accord.
Ou une région avec une certaine autonomie à l'intérieur d'un État, si je fais ce parallèle un peu osé, un peu audacieux. Mais voilà, c'est un royaume intégré à l'Empire romain, comme il en existe d'autres, au Proche-Orient, en Grèce, etc. Enfin, en Égypte, bien sûr.
Oui.
Voilà, donc ce sont des royaumes, et donc celui-là devient un royaume visigoth, et tu as raison, qui dit royaume dit palais.
Oui, et donc les Romains, finalement, les Visigoths, ce sont les Romains qui les ont amenés à Toulouse.
Alors, ce sont les Romains qui
les ont
amenés à Toulouse. Alors, je vais être très honnête avec vous. Hein. J'ai un peu perdu le fil. Je ne me rappelle plus exactement ce que nous avions évoqué. Donc, je le redis en quelques mots. Aux alentours de 350, ils sont en gros sur la plaine du Danube, donc côté nord, donc rive gauche du Danube, hein, mer Noire. Hein, et ils sont à la limite donc, de la frontière romaine. Mais ils sont déjà en lien avec eux. Ils parlent déjà sa culture, ils commencent à apprendre le latin,
ils font partie etc. Des
donc,
armées, des unités qui sont au Limès, qui protègent
oui,
le Limès.
Oui, au Limès, beaucoup se font embaucher comme mercenaires. Donc, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer dans l'Empire et de devenir des citoyens romains. Et ça fait déjà des décennies qu'ils sont installés là. Alors, c'est très compliqué parce que Théodose Ier, donc c'est lui qui fait des promesses, c'est-à-dire que il leur dit OK, rentrez dans l'Empire, l'empereur romain, avant la scission, juste avant la scission entre Occident et Orient. Il fait des promesses, mais ces promesses en fait ne sont jamais tenues. Les promesses c'était quoi? C'est de la terre. Que veulent les Visigoths? Des terres, et
s'établir
définitivement. Oui. Alors que quand ils étaient dans les plaines de l'Europe centrale, ils étaient harcelés par d'autres peuplades, hein, les Huns en particulier. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans l'Empire et s'installer. Sauf que Théodose est confronté à l'aristocratie foncière qui a la terre et qui n'a absolument aucune envie de se délester de ces terrains pour les confier à des barbares, entre guillemets. Donc ça ne marche pas. Donc je le fais court pour dire que une fois Théodose décédé, ces deux fils, l'Empire est partagé, se renvoient la patate chaude, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les promesses ne sont pas tenues et ça donne lieu à des batailles féroces, etc. Et la patate chaude arrive en Italie, ils sont quand même dans les 100 000, hein, en gros, hein, les historiens donnent une jauge à 100 000 personnes. Et d'Italie, donc ils mettent au massacre, hein, 410, c'est une date qui a fait vraiment un traumatisme terrible au sein de l'Empire.
Oui.
Et de l'Italie, l'empereur d'Occident les pousse vers la Gaule. Et donc là, il rasie, pille tout le sud de la Gaule, y compris Toulouse. C'est-à-dire que quand ils passent dans le sud, ils vont jusqu'à Bordeaux, ils pillent. Et là, quand même, effectivement,
les Romains se disent qu'il faut faire quelque chose. Ils sont trop remuants.
Et alors là, c'est Honorius, hein, l'empereur, ils sont trop remuants. Et puis en plus, ils donnent des signes de fidélité. C'est-à-dire que les Visigoths vont en Espagne et aident les Romains à se débarrasser des Vandales, des Suèves, enfin de ces peuplades qui déferlent. Voilà. Donc là, c'est dans ces conditions. Voilà. Donc c'est vraiment en 416, donc Honorius qui se ravise donc après toutes ces péripéties pour les installer à Toulouse en tant que royaume du coup. C'est-à-dire que là, les chefs et notamment donc c'est Valia qui signe le traité, mais ensuite c'est Théodoric Ier, hein, le premier roi donc Visigoth de Toulouse, qui s'installe à Toulouse. Et juste peut-être pour boucler cette séance, dire que pourquoi le choix de Toulouse? Parce que Toulouse n'était pas très pas du tout même centrale par rapport au territoire que Honorius a cédé aux Visigoths, qui serait un grand bassin aquitain, une grande Aquitaine, mmh. et Toulouse du coup est complètement sur la limite orientale, est, ouais. côté Méditerranée. Mais et Bordeaux par exemple aurait été une capitale bien plus logique géographiquement. Donc, le choix de Toulouse, il peut y avoir trois raisons. La première, c'est que les Visigoths veulent justement un débouché vers la Méditerranée, vers la Romanité, et veulent conquérir le port de Narbonne, ce qui sera fait quelques décennies plus tard. Donc Toulouse est une bonne base militaire pour conquérir Narbonne. Secondo, il y a l'immense rempart dont nous avions parlé, qui a été déjà renforcé d'un point de vue militaire dans les années 280-300.
C'est une place sûre.
Donc une oui. place sûre. Donc, pour une capitale royale, c'est important. Et peut-être un troisième facteur qui a pu jouer, c'est que Toulouse, on l'avait vu, vous rappelez, avec Palladia Tolosa, dont on avait vu que cette référence palladienne, au 1er siècle, elle était plutôt un titre honorifique sans grand contenu, alors qu'au 4e siècle, c'est vraiment des écoles importantes et donc une acculturation possible pour les Visigoths. Encore une fois, qui donc une aspiration, oui. c'est de s'intégrer à la société
oui.
romaine.
Oui, oui.
Voilà.
D'autant qu'ils arrivent déjà sur une population très romanisée.
Tout à fait.
Eh bien, merci pour ce rappel. Ça va nous permettre de continuer un bon bout de temps avec les Visigoths et continuer à explorer l'histoire de Toulouse. Et juste pour les Journées du patrimoine, vous pouvez aller voir l'exposition sur le sculpteur Alexandre Falguière présentée au musée du Vieux Toulouse. Tout près de la rue Saint-Rome, c'est les derniers jours, les dernières semaines de cette belle exposition.